Ok, alors on est dans le module 1, la vidéo 1. Ce qu'on va voir déjà, c'est que je vais te refaire le point avec toi sur le lexique, sur ce que veulent dire les mots, qu'on parle la même langue dans cette formation. Et on va faire ensuite le point sur les différences, hein, les vraies différences entre eh bien, la location nue et la location meublée. Alors déjà, il faut savoir que ce n'est pas la même catégorie de revenus. Déjà, voilà, la première chose que tu dois savoir, c'est ça. C'est-à-dire que en location nue, on est au revenu foncier et en location meublée, on est au revenu BIC, c'est-à-dire on est au bénéfice industriel et commerciaux, BIC, BIC. Des fois, tu vas entendre BIC, des fois, tu vas entendre BIC, des fois, tu vas entendre bénéfices industriels et commerciaux. C'est la même chose, c'est la catégorie fiscale, eh bien, de la location meublée. Et les revenus fonciers, eh bien, c'est la catégorie fiscale de la location nue. Donc déjà, de base. Ensuite, tu vas voir qu'on va utiliser des mots comme charge. Charge déductible. Alors les charges, c'est comme pour la location nue, ça va être des coûts que tu imputes à ton revenu. Donc le revenu, ça va être tes loyers. Loyer plus les charges que te donne le locataire, ça va être ton revenu de base, hein, ça va être tes recettes. Eh bien, on va imputer des charges sur ses revenus, sur ses recettes. Donc, les charges, typiquement, ben voilà, ça va venir en diminution de ses recettes. Et il y a autre chose que tu vas entendre souvent, ça va être les amortissements et les immobilisations. Alors, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas voir, hein, tu vas comprendre plus tard. Si on immobilise quelque chose, ça veut dire qu'on va le mettre sur un compte d'immobilisation. Ça veut dire que ça va, cette chose, alors, je prends l'exemple des travaux pour 10 000 euros. Hein, je prends un exemple simple. Voilà. Si on dit que ces travaux-là pour 10 000 euros, on les met en immobilisation, on les passe en immobilisation, eh bien, ça veut dire qu'on va les amortir, ils vont produire des amortissements. Donc, il y a deux catégories, si tu veux, de choses que tu vas enlever de ton revenu, de charges, entre guillemets, que tu vas imputer. Il y a les charges déductibles. Donc, tu verras, hein, je te donnerai après les critères, qu'est-ce que sont des charges, qu'est-ce que sont des immobilisations. Hein, on va le voir petit à petit. Mais je t'habitue au lexique. Donc, les charges et les immobilisations, donc les amortissements. OK? Donc, tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu plus tard dans les détails. Bon, la plus-value, tu sais ce que c'est, hein, la plus-value, c'est ce que tu payes, ce que tu dois. Bien, quand tu revends, enfin, c'est même pas ce que tu payes, c'est-à-dire c'est le prix, la différence de prix à la vente. C'est-à-dire que tu as acheté 100, tu revends 200, tu as fait une plus-value de 100. C'est ça la plus-value, c'est la part de plus-value, c'est le bénéfice que tu fais à la revente et qui va être taxé, bien sûr, par les impôts. Donc, c'est pour ça que je vais t'en parler aussi. Après, tu verras, on va utiliser des mots comme IS, IR, donc impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, etc. Mais à chaque fois, je te redonnerai la définition et je te réexpliquerai les choses parce que suivant ton niveau en fiscalité, il faut bien que tu comprennes. Alors, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, je ne vais pas trop t'envoyer énormément de définitions. Voilà, je vais t'expliquer ce qu'il y a de plus important à savoir et tu vas comprendre précisément pourquoi, déjà, pourquoi la location nue est moins intéressante que la location meublée sur le papier. Pourquoi la location meublée permet de payer moins d'impôts? À quel cas, eh bien, quel type de personne, pour quel type de personne c'est intéressant, pour quel type de lieu c'est intéressant, etc. On va voir ça tout de suite. Je t'emmène sur mon écran, je t'ai fait un tableau, tu verras, tu vas pouvoir le télécharger avec les différences principales et je vais te l'expliquer ligne par ligne. Alors on y va, c'est parti. Alors tu vois, je t'ai mis d'un côté les revenus foncier, et d'un autre côté, les revenus BIC. Donc, c'est ce que je te disais, un hein, BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc les revenus issus de la location meublée. Alors, ensuite, petite parenthèse, il faut que tu saches que dans les deux cas, autant au revenu foncier, donc en location nue, qu'au revenu BIC, tu as deux possibilités. Deux possibilités. Le régime micro et le régime réel. Alors, en revenu foncier, tu vas voir, ça s'appelle le micro-foncier et le réel. Et en BIC, ça s'appelle le micro-BIC et le réel simplifié ou le régime simplifié. C'est la même chose. Ça fonctionne à peu près pareil. C'est-à-dire que quand tu choisis le micro dans l'un ou l'autre cas, on va dire, OK, monsieur, vous choisissez le micro, très bien. On va vous faire un abattement. Donc, tu vois ici sur le tableau, régime micro ici, l'abattement est de 30% et là l'abattement est de 50%. Alors j'ai mis des codes couleurs, hein. Quand c'est mieux c'est vert, quand c'est moins bien c'est rouge, hein. Ça te permet de rapidement en un coup d'œil voir où sont les avantages. Donc tu vois qu'au régime micro tu as un abattement de 30% en nu, hein, location nue, et en location meublée tu as un abattement de 50% ou 71%. Alors je vais t'expliquer comment ça marche. Si tu choisis d'être au micro, si tu dis ok, alors tu vas voir, je vais t'expliquer après comment on fait, il y a une option, tu coches la case, soit tu es au micro, soit tu es au réel. Si tu choisis d'être au micro, tout ce dont je viens de te parler avant, les charges, les amortissements, etc., tu l'oublies. C'est pas compliqué. À la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? On prend ton revenu de toute l'année. Par exemple, allez, ton loyer, je sais pas, moi, on va faire un cas pratique vite fait. Ton loyer, c'est 600 euros. Tu loues un appartement 600 euros sur 12 mois, ça fait 7200 euros. Dans le cas du revenu foncier, on va dire, ok, monsieur, on va enlever, on fait un abattement, c'est-à-dire on abat une partie de la somme, on la soustrait. Donc là, tu vois, l'abattement est de 30%. Donc si tu loues nu, on va dire, ok, monsieur, on vous enlève 30%. Donc 7200 moins 30%, donc ça fait 2160. 7200 moins 2160, ça fait 5040 euros. Donc ces 5040 euros là, eh bien, c'est ton revenu foncier de référence, hein, si j'ose dire. Donc, c'est cela que tu vas rajouter sur ta déclaration et on calculera tes impôts là-dessus. Ok ? Il n'y a pas de « je fais des travaux, je fais pas de travaux », on s'en moque. On n'enlèvera rien. C'est-à-dire qu'on t'enlève cet abattement de 30% et rien d'autre. Pareil, donc ça, on parlait du nu, des revenus fonciers. En BIC, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu choisis d'être au micro, c'est plus 30%, c'est 50%. Donc si je reprends le même exemple, 600 x 12, 7200, bon ben, je fais un abattement de 50%, donc j'enlève 3600, il reste 3600, et ces 3600 euros-là qu'on viendra ajouter sur ta déclaration de revenus, et on le verra plus tard, qui vont s'ajouter à ta tranche d'imposition. Donc si tu choisis cette option, en gros, alors je te spoil un peu la suite, cette option, il ne va pas falloir la choisir, je vais t'expliquer pourquoi il ne va pas falloir la choisir, et dans quel cas, dans quel très petit nombre de cas il va falloir la choisir. Si tu choisis cette option, eh bien, voilà, c'est tout. On n'enlève pas de charge, on n'enlève pas d'amortissement, on ne s'embête pas à réfléchir, comptabilité, etc. Non, on divise, là, on enlève 30% dans un cas, 50% dans l'autre, et terminé, tu as juste à reporter ça sur ta feuille d'impôt. Alors, l'avantage, c'est la tranquillité, ça, c'est clair. Ben voilà, hein, tu prends en fin d'année, tu reportes ça sur ta feuille d'impôt, et puis, bon, ben... voilà, c'est tout. On ne va pas chercher plus loin. Alors, le gros avantage, c'est la tranquillité. Par contre, le désavantage, c'est que tu ne vas pas pouvoir créer de déficit foncier. Ce qui va nous intéresser, soit au revenu foncier d'ailleurs, ou soit au revenu BIC, ça marche dans les deux cas, c'est qu'on va faire des déficits grâce notamment aux charges. Donc, si par exemple de base, encore une fois, tu fais plus de travaux que ce que te rapportent tes loyers dans l'année, tu vas être en déficit. Donc, bah, par exemple, dans ce cas-là, tu ne paieras pas d'impôts. Je prends volontairement des exemples simplistes pour le moment parce qu'on est vraiment au début. Donc, ça, tu peux le faire que si tu es au réel. Si tu n'es pas au réel, il n'y a pas d'histoire de déficit. Donc, les travaux sont perdus, entre guillemets, si jamais tu en fais. Donc, tu vois, déjà, ça ne va pas être très intéressant pour nous puisqu'on veut faire des bonnes affaires, puisqu'on veut acheter des appartements pas chers. Donc, bah, on va peut-être chercher plutôt des appartements à rénover. Si on cherche plutôt des appartements à rénover, bah, forcément, il y aura des travaux. Si on fait des travaux, bah, voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les régimes micro, que ça soit en BIC, ce qui nous intéresse là, puisqu'on est sur la formation meublée, mais même en revenu foncier en nu, si tu fais aucun travaux, et si tu ne payes pas énormément d'impôts, donc si tu es sur les premières tranches d'imposition, 14% ou 30%, même pas à 30%, c'est même plus intéressant. 14% à la rigueur, et si tu ne fais aucun travaux, ça peut peut-être être intéressant, il faut calculer. Mais dans la grande majorité des cas, dans 95% des cas, ça ne va pas être intéressant, il va mieux falloir passer au réel, puisqu'au réel, tu vas pouvoir passer toutes tes charges. Tu vas voir, je te ferai après le topo de toutes les charges que tu peux passer. Tu vas voir que tu peux passer beaucoup de choses, ainsi que les amortissements des travaux dans le cadre du régime meublé. Tu vas pouvoir passer les intérêts sur ton crédit, etc. Tout ça, tu ne peux pas le passer quand tu es sur le régime du micro, micro foncier ou micro BIC. Donc tu comprends tout de suite que voilà, c'est vraiment pas intéressant. Ça peut être intéressant dans très peu de cas. Je reviens, tu as un appartement que tu achètes en très bon état, il n'y a aucun travaux à faire, tu es très faiblement imposé et tu payes cash. Bon, bah là, ok, là, ça sera peut-être plus intéressant d'être au micro que d'être au forfait, enfin d'être au réel, pardon. Mais à partir du moment où tu fais un crédit, si tu peux déjà pas enlever les intérêts d'emprunt, si tu peux pas abattre, si tu peux pas déduire les intérêts d'emprunt, déjà, bah, tu te tires une balle dans le pied. Alors, je te montrerai après des moyens de calculer facilement avec, avec des sites internet, etc. Tu pourras faire toi-même les calculs, hein, tu verras, il y a des simulateurs qui sont très bien faits où tu pourras faire le calcul au micro et au réel et tu te rendras compte par toi-même que quasiment toujours le réel est plus intéressant. Donc dans cette formation, on va s'intéresser beaucoup plus au réel parce que le micro, il y a quasiment rien à faire en termes de fiscalité. Il y a toutes les mêmes choses à faire qu'on va voir, mais en termes de fiscalité, à la fin de l'année, quand vient ta déclaration, t'appliques l'abattement, et puis c'est fini, quoi. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que, on revient sur le tableau, tu vois, donc déjà, si jamais tu utilises le micro-BIC, dans tous les cas, on est déjà mieux sur le meublé, c'est-à-dire qu'on a un abattement de 50 ou 71. Alors, cet abattement de 71, il va s'appliquer pour tout ce qui est résidence de tourisme. Donc, c'est pareil, on s'éloigne de la formation, mais tu verras que dans un certain nombre de cas, si jamais c'est ton cas, que tu souhaites faire de la location vraiment de vacances, un gîte touristique ou éventuellement location pour les curistes et ce genre de choses, si tu es au micro, tu auras l'abattement de 71. Donc là, il faudra refaire les calculs pour vérifier si l'abattement de 71 n'est pas plus intéressant. Ensuite, nous avons le régime réel. Donc le régime réel, pourquoi j'ai mis un trait? Parce qu'il n'y a pas d'abattement, bien sûr. On va aller chercher le réel. C'est pour ça que ça s'appelle régime réel. Donc, on va aller chercher les charges réelles. On va regarder ce que réellement tu payes pour te permettre de les dégrever de ton revenu. C'est un petit peu comme quand tu choisis d'être soit au réel au niveau de tes frais. Tu sais, les frais qu'on t'enlève, les fameux 10% de forfait de charges là, qu'on t'enlève sur ta déclaration d'impôt. On t'enlève 10% pour frais. Frais de déplacement, etc. Tu es libre de choisir soit l'abattement de 10% sur ta feuille d'impôt, soit les frais réels où tu mets tes frais kilométriques, etc. Et bien là, c'est la même chose. Tu es libre de choisir le fameux abattement dont on vient de parler, soit le réel dont je vais te parler maintenant. Donc l'option. En revenu foncier, donc quand tu loues nu, il faut faire plus de 15 000 euros de revenus ou opter pour l'option. C'est-à-dire que je vais te montrer après comment il faut faire, il faut envoyer un courrier, etc. Pour passer au réel. C'est pas automatique. C'est automatique si tu dépasses 15 000 euros, mais si tu n'optes pas en dessous de 15 000 euros, alors tu peux opter dès le premier euro. Hein, mais faut le dire à l'administration fiscale. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas le deviner. Pareil pour le nu, tu vois, alors le plafond est plus haut, c'est 32 900. Ou 82 200, alors c'est encore une fois, je l'ai mis, tu vois, c'est pareil, hein, c'est entre parenthèses, c'est encore une fois dans le cadre des locations de vacances, des gîtes, etc. Mais pareil, tu peux opter, alors si tu dépasses 32 900, c'est automatique, mais dès le premier euro, tu peux opter. Donc je te montrerai bien sûr dans le module 4, on va voir ça, comment faire pour opter tout de suite, dès le début, pour profiter de toutes les déductions que tu vas pouvoir déduire. Tu vas voir, tu ne vas pas payer d'impôts pendant, suivant ta situation, suivant ta situation fiscale, personnelle, tu ne vas pas payer d'impôts pendant au moins 1, 2, 3 ans minimum, et ça peut aller jusqu'à 7 ans, 10 ans, tu vas voir. On va faire les simulations ensemble, tu vas voir, c'est très puissant. Donc voilà, l'option, pareil dans les deux cas, c'est une option. L'engagement à l'option. Alors, tu vois, ça veut dire quoi, l'engagement à l'option? Ça veut dire que une fois que tu as opté, pendant combien de temps tu es obligé de continuer à déclarer au réel? C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, là, boum, le 1er janvier de cette année, j'opte pour le réel, j'envoie mon courrier, etc. Pendant 3 ans dans le cadre des revenus fonciers, je vais être obligé de rester au régime réel, tu vois ici, alors que en meublé, ça va être que 2 ans. Alors ça va pouvoir être intéressant. Parce qu'on va pouvoir anticiper des choses. Alors déjà, tu vois, on est engagé moins longtemps. Donc si on veut revenir au micro, on peut. Donc là, tu commences à comprendre. Parce que, par exemple, si je fais énormément de travaux au début, voilà, le bien, j'achète un bien qui est ravagé, il faut que je fasse énormément de travaux pour le remettre en état. Donc là, ça va être intéressant pour moi d'être au régime réel, parce qu'on va le voir après, hein, on va déduire énormément de charges, on va déduire énormément d'amortissements, et ça va être intéressant pour nous de se mettre au réel. Comme ça, on ne va pas payer d'impôts pendant un moment. Mais au bout d'un moment, au bout du moment où nos charges sont terminées, on n'a plus rien, on a quasiment plus rien, à part peut-être notre emprunt, ou alors si on n'a pas fait d'emprunt, et ben on a pas ça non plus, on aura peut-être 2-3 charges de syndic, ou etc. Et on n'a plus d'amortissement, ben parce que nos amortissements, pareil, sont passés. Et ben on se posera la question de, tiens, est-ce que je reviendrai pas au régime micro ? Alors tu verras, tu pourras faire toi-même tes calculs, peut-être qu'au bout d'un moment, ça sera intéressant de revenir au régime micro. Voilà, il faut savoir que c'est moins long, tu es engagé moins longtemps quand tu es en meublé. Ensuite, les charges déductibles. Alors bien sûr, au micro, on l'a vu ensemble avant, tu déduis rien. Tu es sur le forfait, le fameux forfait ici de 30% sur les revenus fonciers, et en meublé, tu es sur le fameux forfait de 50%. Donc là, en micro, tu déduis rien. Par contre, au réel, tu vas tout déduire pour les revenus fonciers, sauf ce qu'on appelle les travaux de construction, reconstruction et agrandissement. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends un immeuble, que tu le détruis et que tu le reconstruis, là, tu ne pourras pas déduire ces charges-là. Tu ne pourras pas déduire ces travaux-là. Si tu agrandis la surface, par exemple, si tu as un appartement et au-dessus tu as des combles, si tu veux rentrer ces combles dans l'appartement et donc augmenter la surface habitable de ton appartement, la partie comble qui va permettre d'agrandir la surface ne sera pas déductible. Ça, il faut le savoir, c'est important. Alors qu'au revenu BIC, tout est déductible. Donc, c'est beaucoup plus simple et en plus, on amortit. C'est-à-dire que si tu agrandis, c'est pas grave, tu agrandis, tu rentres tes combles à l'intérieur, hop, tu vas faire tes travaux, et puis après, tu vas voir, on va calculer en comptabilité, on a fait tant de travaux, on a fait ci, on a fait ça, et on a amélioré l'appartement, on l'a agrandi, on a fait des... Peu importe, tout va être déductible. Donc là, c'est plus intéressant pour nous. Ensuite, la plus-value à la revente, au revenu foncier, tu es sur la plus-value des particuliers, au BIC, tu es sur la plus-value des particuliers, c'est la même chose, dans les deux cas, tu es imposé comme un particulier. Alors, il faut bien que tu comprennes, que tu vas voir au fil de cette formation et dans les modules là qui vont s'enchaîner, tu vas voir qu'en fait, quand tu loues meublé, tu es considéré un petit peu comme une entreprise. Tu vas voir, c'est très bizarre. C'est-à-dire que tu as un statut qui est à cheval entre les revenus fonciers, donc la location nue, et une entreprise. Tu vas voir que l'imposition, elle ressemble à l'imposition d'une SCI à l'IS, mais avec les avantages des particuliers. En fait, tu es entre les deux. Quand tu loues en meublé, en LMNP ou en LMP, je vais t'expliquer après les différences, tu as un statut bâtard, entre les deux. Tu es considéré comme une entreprise pour ta comptabilité, mais comme un particulier pour ton activité. Tu comprends ? Comme un particulier pour ton activité, comme une entreprise pour ta comptabilité, sauf sur la plus-value à la revente. Sur la plus-value à la revente, d'un seul coup, on arrête de te considérer comme une entreprise, entre guillemets, et ta comptabilité, on dit non. Là, juste pour la revente, tu es considéré comme un particulier. Ça veut dire que tu bénéficies de la même fiscalité que les particuliers quand tu revends. Donc, tu as droit à l'abattement pour durée de détention. Et tu vas voir que tu es beaucoup moins fiscalisé que si tu étais, par exemple, sur un montage en société. Parce que tu vas voir, je vais t'expliquer, on va rentrer dans les détails. En fait, en meublé, en LMNP, en LMP, ta comptabilité ressemble énormément à une société à l'IS. Donc que ça soit une SCI, une SARL, une SAS, peu importe. On parle tout le temps des SCI à l'IS qui permettent de payer moins d'impôts, c'est vrai. Tu vois que la comptabilité ressemble énormément, les amortissements, etc. Ça fonctionne absolument pareil, sauf sur la plus-value à la revente. La plus-value à la revente, d'un seul coup, on dit « Non, monsieur, vous êtes un particulier. » Donc, tu as le meilleur des deux mondes. Tu peux cumuler grâce à l'allocation meublée et la comptabilité intéressante qui permet de déduire énormément de choses et le jour où tu revends, la plus-value des particuliers, contrairement à la SCI et à l'IS, par exemple, où tu es bloqué avec ton bien, tu peux pas revendre. Ou alors, si tu revends, tu payes énormément d'impôts. Là, si tu revends, tu payes comme tu paierais comme un particulier. Et puis, on va voir encore autre chose, c'est que si tu t'es intéressé à la SCI à l'IS, tu sais peut-être que dans une SCI à l'IS, pour sortir le revenu, c'est très compliqué. Puisque la société, là pour le coup, c'est une société, c'est pas vraiment le statut bâtard entre les deux comme le LMNP, comme la location meublée. Donc c'est vraiment une société, c'est-à-dire que l'argent ne t'appartient pas, l'argent appartient à la société. Donc quand tu encaisses des loyers, etc., tu fais ta comptabilité, à la fin, il y a de l'argent dans ta société. Tu ne peux pas sortir cet argent. Si tu sors cet argent, il va falloir faire la même chose qu'une société commerciale, c'est-à-dire soit te mettre un salaire, t'octroyer un salaire, donc tu vas payer des charges sociales, soit des dividendes. Donc des dividendes comme n'importe quelle société, donc pareil, tu vas payer des charges sociales et ça va s'ajouter à tes impôts, etc. Donc tu ne peux pas sortir l'argent. Alors que, encore une fois, ce statut bâtard entre les deux du meublé et du LMNP en nom propre fait que tu bénéficies encore une fois de la même comptabilité que la société à l'IS, donc les abattements, les amortissements, les charges, etc. Mais tu peux sortir le revenu, puisque tu as un particulier, tu es entre les deux, tu vois, tu as ce statut bizarre. Donc le revenu t'appartient, il n'y a pas d'histoire de dividende, il n'y a pas d'histoire de salaire, il n'y a rien. Donc, tu commences à comprendre, tu as tous les avantages, en fait, grâce à la location meublée, en LMNP ou en LMP, en tant que particulier, tu as tous les avantages, le meilleur des deux mondes. Et on le voit ici, la plus-value des particuliers. Alors, on va aller un peu plus loin. La case suivante, c'est le comptable. Alors, en revenu foncier, en effet, tu n'as pas besoin de comptable. Tant que tu es en nom propre, pas besoin de comptable. Après, quand tu es en société, bon, il y a besoin d'un comptable. Au revenu BIC, en effet, si tu es au micro, bon, il n'y a pas besoin de comptable, puisque je t'ai expliqué, en fin d'année, il suffit de diviser par deux. Il n'y a pas besoin de comptable. Voilà, tu remplis ta déclaration fiscale. Par contre, au réel, alors tu vois, il faut bien qu'on ait au moins un point rouge dans tout ce joli tableau vert. Eh bien, au réel simplifié, au revenu BIC, quand tu loues en meublé, en effet, il va falloir que tu tiennes une comptabilité, c'est légal, c'est un point légal. Vu que tu es considéré, encore une fois, ce statut bâtard, là, par contre, pour la comptabilité, tu es considéré comme une entreprise, c'est-à-dire que tu dois, à la fin de l'année, clôturer ton activité. Il y a une liasse fiscale à envoyer aux impôts, il y a un compte de résultats, un compte des immobilisations, etc. Enfin, il y a beaucoup de paperasse à faire. Alors, je vais t'expliquer dans le module 4 comment faire. Mais il y a toute cette paperasse à faire. Et à un moment ou à un autre, il va falloir un comptable. Alors, à moins que tu sois comptable toi-même et où tu vas être capable de le faire, mais si tu es un particulier, même si tu es au point en fiscalité, tu t'intéresses, etc., il y a quand même beaucoup de déclarations à déposer et de choses à faire. Mais il existe des très bons outils. On en parle dans le module 4, donc je te montrerai comment faire pour faire à moitié toi-même et à moitié avec un comptable qui va vérifier tes comptes, ou comment trouver un bon comptable et faire et tout déléguer, combien ça coûte, etc. Je vais t'expliquer ça dans les prochains modules. Mais sache qu'il y a une comptabilité à tenir. Alors, il y a des moyens. Franchement, c'est pas infaisable. Ça ne doit pas t'arrêter. Mais je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Il faut bien penser à garder ses factures. Il va falloir classer les choses, etc. Il va falloir organiser ton patrimoine comme si tu étais une entreprise. Et tu vas voir que ça va te forcer aussi à faire les choses correctement, etc. Donc, voilà, faut le savoir. Ensuite, l'option pour l'IS. Alors, je t'en parlais juste avant. Quand tu loues nu, en effet, tu te dis, tiens, je vais faire une SCI à l'IS. Tu l'as sûrement déjà entendu, tout le monde en parle, une SCI à l'IS, une SCI à l'IS. Ok, on est d'accord. Quand tu fais une SCI à l'IS, au jour le jour, tu payes moins d'impôts. Puisque, on va le voir après, on bénéficie un petit peu de la même comptabilité que nous, là, sur le meublé, donc les amortissements, les charges, etc. Donc, on arrive à baisser ses impôts grâce au jeu, au jeu fiscal. Par contre, je te l'ai dit avant, le revenu est bloqué. Si tu veux le sortir, tu payes. Et à la fin, quand tu revends, tu n'es plus sur la plus-value des particuliers, tu es sur la plus-value des professionnels. Société commerciale, à l'IS, IS, ça veut dire impôt sur les sociétés. Donc, SCI et l'IS, peu importe que ça soit une SCI, elle est considérée comme une société commerciale, en tout cas fiscalement, puisque l'IS implique l'impôt sur les sociétés qui implique la plus-value des professionnels. Donc, à la revente, tu es considéré comme un professionnel. Donc, la plus-value fait vraiment très mal, beaucoup plus mal que pour un particulier. Et puis, plus tu attends pour revendre, plus il se passe de temps entre le moment où tu as acheté et le moment où tu revends, et plus tu payes. C'est l'inverse. Quand tu es un particulier, plus le temps passe et plus eh bien, tu peux espérer avoir un abattement et payer un petit peu moins. Hein. Donc tu vois, il y a des petits abattements au fur et à mesure du temps et au bout de 30 ans, actuellement, alors ça change tout le temps, hein, actuellement c'est au bout de 30 ans où enfin tu payes plus du tout. Mais ça fait un peu un escalier comme ça, tous les 5 ans, tous les ans, à partir de 5 ans, et puis après tous les ans, tu payes un peu moins et un peu moins. À l'IS, en société, donc si jamais, alors nous ça ne nous intéresse pas, hein, nous on va louer en meublé, hein, on ne sera pas en société. Mais à l'IS, en effet, tu payes la plus-value des professionnels, ça veut dire que c'est le contraire. Ta plus-value, plus le temps passe et plus elle augmente. Puisque avec le jeu des amortissements, eh bien ton bien vaut comptablement de moins en moins cher. Donc si ton bien vaut de moins en moins cher, ta plus-value est de plus en plus grande. Donc c'est vraiment pas intéressant pour nous en meublé, pas de SCI à l'IS, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas. Et d'ailleurs pas de SCI à l'IR non plus, pas de SCI tout court. Pourquoi ? Pas de SCI à l'IS pour ce que je viens de t'expliquer avant. On ne peut pas sortir l'argent facilement, ou alors on est imposé, donc ça ne nous intéresse pas. Et on a la plus-value des particuliers, des professionnels qui augmentent avec le temps, donc ça ne nous intéresse pas. Et pas de SCI à l'IR, puisqu'on n'a pas le droit de faire du meublé avec une SCI à l'IR. Puisque l'IR, justement, fiscalement, c'est considéré comme des opérations qui ne sont pas commerciales. Et nous, rappelle-toi, on est entre les deux. On est entre le particulier et l'entreprise, c'est bizarre. Et notre activité, elle est considérée comme commerciale. Donc, si tu fais une SCI à l'IR et que tu commences à louer en meublé, eh bien, après ta première déclaration, les impôts vont t'appeler, te retoquer, t'envoyer un courrier et ils vont automatiquement faire passer ta SCI à l'IS. Ils vont dire, monsieur, vous n'avez pas le droit, c'est interdit. Donc, c'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est que vous n'avez pas le droit à l'IR. Donc, votre SCI, hop, automatiquement, elle passe à l'IS. Et là, t'es dans le caca, puisque tu tombes dans tout ce qu'on vient de dire avant. Tu peux pas sortir l'argent, sinon, dividendes ou salaire, tu payes beaucoup d'impôts, et la plus-value des professionnels. Donc là, c'est pas marrant du tout. Donc l'option pour l'IS que je t'ai mis là, au revenu foncier, elle est possible, elle permet de diminuer son impôt au jour le jour. Par contre, plus-value des professionnels, et sortie de revenus sous la forme de dividendes, voire de salaire, mais bon, vaut mieux opter pour les dividendes en principe. Encore une fois, ça va dépendre des principes, mais enfin des cas, mais dans 90% du temps, les dividendes sont quand même plus intéressants. Ça fait mal, quoi. Là où c'est intéressant, et là, la vraie force du meublé, c'est que, regarde, nous, on n'a pas besoin d'être à l'IS, puisqu'on profite déjà de la même comptabilité, sauf que, en plus, à la revente, on a un meilleur régime, tu vois ici, on a la plus-value des particuliers, et on peut sortir des capitaux comme on veut. Si tu as de l'argent, tu touches tes loyers, hop, tu déduis tes charges, tes amortissements à la fin de l'année, et il n'y a pas de société. C'est toi-même. Tu vois, t'es un peu entre les deux, mais c'est toi-même. L'argent, il est à toi, il est sur ton compte en banque, on s'en moque, il n'y a pas d'histoire de sortie, il n'y a pas d'histoire de société. Donc, voilà, là, c'est la vraie force, la première vraie force de la location meublée. Tu vois, la deuxième, elle est encore plus puissante parce que tu vas voir à quel point tu peux déduire de choses. On termine le tableau pour que tu aies une vision globale des choses. Le prérequis de l'IS, c'est de monter une société commerciale hein, pour les revenus fonciers. Nous, on n'en a pas besoin. Engagement de l'option à l'IS, ah oui, ouais, cerise sur le gâteau. L'engagement à l'IS est irrévocable. Okay ? Alors que tu vois ici, hein, en revenus fonciers, bien sûr, et même toi, si jamais tu fais la bêtise, entre guillemets, de te mettre en SCI à l'IR et que les impôts te requalifient à l'IS, ça devient irrévocable aussi. Donc tu vois comme une erreur simple comme ça de méconnaissance peut te coûter très cher. Voilà, tu t'es dit, je me mets en SCI à l'IR, je fais du meublé, boum, t'es requalifié à l'IS, boum, c'est irrévocable, et là, tu t'es fait avoir, c'est pas compliqué, tu vas être bloqué et tu vas pas pouvoir profiter de tous les avantages dont on a parlé avant. Donc, attention. Donc, à retenir, hein, si on doit faire le point de ce premier tableau, ces premières différences, au revenu foncier, en nu, le micro, c'est jamais très intéressant, sauf si t'es vraiment très peu imposé et qu'il y a peu ou pas de travaux. Et éventuellement, que tu ne fais pas de prêt. Et ça va être très rare. Hein, tu as un héritage, pas de prêt. Et encore, faut vraiment calculer parce que ça va pas être très intéressant. Ou éventuellement, une réduction d'impôt one shot, Alors, qu'est-ce que j'appelle one shot? C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu étais au régime réel et tu repasses au régime micro pendant un an ou deux, le temps de réduire tes impôts parce que tu n'as plus de déduction possible au réel. Mais bon, franchement, 99% des cas, ce ne sera pas intéressant. Et si tu passes au réel, eh bien, tu seras fortement taxé puisque en nu, tu vas voir, on va faire les calculs après, on va comparer. Tu es quand même beaucoup plus taxé qu'en meublé. Donc, fortement taxé tout de suite et peu à la sortie puisque plus-value des particuliers, donc ça, ok. Ou alors, si tu veux être peu taxé, eh bien, tu vas faire un montage à l'IS, hein, par exemple SCI à l'IS, SARL à l'IS, SAS, etc. Tu seras peu taxé aujourd'hui hein, puisque tu vas utiliser la comptabilité la même que nous en meublé. Sauf que, eh bien, tu seras fortement taxé à la sortie puisque plus-value des professionnels. Et en plus, si tu veux sortir l'argent, tu vas être bloqué. Donc en gros, si tu fais un montage à l'IS en nu, tu vas être condamné, entre guillemets, à jamais revendre et à jamais sortir l'argent. Donc tu vas être condamné à prendre cette société à l'IS et racheter, réinvestir. En fait, la SCI à l'IS est intéressante dans certains cas pour réinvestir, par exemple. Donc tu sors pas l'argent, tu réinvestis, tu rachètes, et aussi pour des cas de donation, succession à tes enfants. Mais ça sera quand même beaucoup moins rentable que l'autre côté du tableau, c'est-à-dire les revenus BIC. Donc pareil, hein, le micro, ça va être intéressant si tu es faiblement imposé et s'il y a peu de travaux, voire s'il n'y a pas de prêt. Mais bon, dans très peu de cas. Par contre, le régime simplifié, le réel simplifié, alors là, c'est le Saint Graal entre guillemets. Faiblement taxé tout de suite, puisque la comptabilité de société, donc on va rentrer dans les détails ensuite, et peu taxé à la sortie, puisque la plus-value des particuliers, donc les avantages du nom propre et les avantages de la société à l'IS, donc le meilleur des deux mondes, c'est un peu la dernière niche fiscale de l'immobilier, hein, clairement, l'allocation meublée en LMNP, en LMP aussi, mais on va surtout s'intéresser au LMNP parce que je te ferai un petit topo sur le LMP, tu verras que les conditions pour être LMP sont très dures, très compliquées, et puis cette formation, ça, elle s'adresse plutôt à toi qui as envie d'en apprendre plus, etc. Et si tu veux, la première marche, de toute façon, avant de devenir LMP, tu vas passer par le LMP, quoi qu'il arrive. Par le LMNP. Alors, je te fais le topo parce que je t'ai pas donné le lexique LMNP. Loueur meublé non professionnel et LMP, loueur meublé professionnel. Puisque dans les revenus BIC, dans ce qu'on vient de voir, donc il y a les deux possibilités, micro et réel, et il y a aussi deux statuts, c'est-à-dire LMNP, loueur meublé non professionnel, et LMP, loueur meublé professionnel. Donc là, je vais t'expliquer après, t'inquiète pas. Mais quoi qu'il arrive, bon, bien sûr, le LMP peut être intéressant, mais tu ne vas pas y être du jour au lendemain, tu vas voir les conditions. Donc, on va s'intéresser vraiment au LMNP. Je vais te donner toutes les clés pour peut-être un jour, j'espère, tu verras qu'il faut beaucoup de bien pour être LMP. Mais si un jour tu y arrives, tu auras toutes les clés et tu vas passer par cette marche du LMNP. Ok, alors, ne t'inquiète pas, je sais que ça fait beaucoup d'informations. Là, ça fait vraiment une grosse vidéo. Donc, prends le temps de la digérer. Éventuellement, tu peux la re-regarder, tu peux la réécouter en MP3, parce que je suis certain qu'il y a peut-être des moments où tu as décroché, où tu as dit « Attends, j'ai pas compris », reviens en arrière, réécoute. C'est assez simple. Une fois que tu as compris, une fois que ton cerveau s'est mis en mode « Ok, j'ai compris les différences », c'est assez simple. Mais tu n'as pas encore tous les éléments. Ne t'inquiète pas si c'est encore flou, c'est normal. T'as pas encore tous les éléments, on va aller sur la prochaine vidéo ensemble et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est déductible. Je vais t'expliquer ce qu'est déductible au revenu foncier, alors on va pas s'attarder dessus, hein, et ce qui est déductible en BIC, donc en meublé. Et tu vas voir les différences et je vais, encore une fois, aller plus loin avec toi pour que tu deviennes un vrai spécialiste de la fiscalité du meublé. C'est parti, vidéo 2, on y va!